difficile. Et merci Aline pour cette prière. Ce qui est important, c'est que Dieu nous aide à garder la foi. Je me plais à dire, et j'ai mis peut-être longtemps à le dire, mais pour moi, la mort m'est un gain. Je sais que ce qu'il y a après, pour ma part, sera mieux que ce qui est maintenant. Même si c'est difficile pour ceux qui restent, je vais vous manquer. Je pars pas de suite. Donc nous allons voir un passage dans Samuel. Donc 1 Samuel chapitre 7 et tout le chapitre d'ailleurs. Les habitants de Kirjath-Jearim virent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jearim. 20 années avaient passé, alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, et dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils le servirent l'Éternel, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel et il cria à l'Éternel, pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins, et les mis en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela Ebenezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés et ne virent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins et il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Voilà notre passage. Des temps d'oppression et de confusion dans ce moment-là. Israël vit des temps difficiles. C'est la fin de la période des juges. Un cycle sans fin de chute, d'oppression, de repentance et de délivrance. À chaque fois, le peuple oublie Dieu. Il se tourne vers d'autres dieux, vers des idoles. Et du coup, il perd la bénédiction et subit la domination de ses ennemis. Puis Dieu, dans sa grâce, relève un homme pour les ramener à lui. Ici, Israël souffre à cause de son infidélité, mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'arche de l'Alliance était pour les Israélites un symbole. Quand ils avaient l'arche de l'Alliance, ils avaient la victoire. Pourtant, cette alliance était, ce symbole était mal compris. Ce n'était pas un objet magique. Ce n'était pas un talisman, peut-être un gris-gris. Ce n'est pas parce qu'il y a notre Bible sur notre table de chevet que nous allons attirer la bénédiction pour nous. Et ce peuple, c'était la même chose. L'arche était plutôt un symbole de l'alliance, de la relation que Dieu voulait avec son peuple. Il attend que le cœur des gens, le cœur de ce peuple soit attaché à lui. L'arche a été mise à l'écart et donc du coup ils sont sous la domination. Nous aussi, parfois, on a des habitudes chrétiennes, mais notre cœur est ailleurs. Tu peux mettre la diapo dessus ? Non. Non, reviens. C'est pas encore là. On a nos habitudes. Je vais me tromper dans mon diaporama. On a des habitudes chrétiennes, mais notre cœur est ailleurs. On croit que Dieu nous doit quelque chose, mais on oublie que c'est lui qui nous appelle à la fidélité. Parfois, on prend les versets et on en fait des promesses de prospérité. Avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire? Est-ce qu'on préfère vivre en marge de sa présence, en s'appuyant sur des fausses sécurités? Est-ce que, insidieusement, notre vie chrétienne se résume à respecter des règles, se remettre un peu sous la loi, alors que Jésus nous appelle à une relation vivante avec lui tous les jours? Oui, peut-être on professe le Seigneur de notre bouche, mais comment lui plaire vraiment avec une foi obéissante? C'est un peu l'exemple de ce peuple. Mais on voit que l'oppression va ramener le peuple à Dieu. Forcément, on a un peu cette question de dire, mais c'est Dieu qui permet l'oppression. On voit bien que dans ce passage, c'est les conséquences du péché et du rejet de Dieu qui fait que l'oppression des ennemis, les Philistins, s'appesantissent de plus en plus sur ce peuple. Du fait de l'épreuve, le peuple se souvient et revient à Dieu dans une repentance sincère. On voit ça au verset 2. « Toute la maison d'Israël pousse des gémissements vers l'Éternel. » L'oppression est donc une part de conséquence de l'infidélité du peuple. Mais ça reste quand même un moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Il change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. De même, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Sans que les chrétiens n'aient nécessairement péché ou que ce soit éloigné de Dieu, lorsque les choses vont mal, ils se sont naturellement réfugiés et rapprochés de lui. Et cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables. Je vais vous lire deux témoignages. Omar, que nous avons vu tout à l'heure, mais aussi Kamala Nepali. Kamala Nepali est née dans une famille hindoue, au sein d'une communauté pauvre de l'ouest du Népal. Alors qu'elle est encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse, et elle-même découvre la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile, avec une belle famille alcoolique et un mari infidèle, l'empêchant de pratiquer sa foi. Pardon. C'est dans cette souffrance, réalisant que ce chaos découle de sa désobéissance et qu'elle se repent de sa trahison à Dieu et revient à sa famille chrétienne et à la foi. Omar, le pasteur que nous avons vu tout à l'heure, sert Dieu dans le nord du Mozambique, une zone de persécution violente contre les croyants, et malheureusement est une pratique courante, la persécution. Malgré les menaces, les agressions et même les fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Comme on l'a vu dans la vidéo, un jour est venu un groupe d'islamistes, l'attaque et le jette à terre. C'est à ce moment qu'il vit une expérience puissante dans la présence de Dieu à ses côtés. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et par la foi, il s'y accroche comme à une ancre. Sa délivrance intervient miraculeusement par l'arrivée à point nommé de la police. Revenons au passage dans 1 Samuel, au verset 3 à 9, la nécessité d'un retour sincère à Dieu. Samuel leur dit « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel », au verset 3. Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Samuel parle au nom de Dieu. Dieu ne ferme jamais la porte à celui qui revient à lui. Samuel ne condamne pas le peuple. Il accompagne sa repentance. Il prie pour eux. Il intercède. Il offre un sacrifice. C'est une image de Jésus, notre intercesseur perpétuel. Quand tu reviens à Dieu, il ne t'accueille pas avec des reproches, mais avec joie. Il te montre simplement le chemin du retour. Ôtez les idoles et servez l'Éternel seul. Dieu veut un cœur entier, pas une loyauté partagée. Lorsque Kamala revient dans sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce, la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Et elle trouve un refuge en Dieu et elle le recherche de tout son cœur. D'abord hébergée provisoirement dans l'église, elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil. Une profonde repentance, une repentance sincère. Le peuple répond. Au verset 5 et 6, et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpah et puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. C'est une vraie repentance. Pas seulement une émotion, mais une décision. Ils ne se contentent pas de le dire, ils agissent avec sincérité. Ils veulent attirer la faveur de Dieu. Dieu ne résiste pas à un cœur brisé et sincère. La repentance ouvre la porte à la restauration. Dieu délivre et restaure. Alors que le peuple prie, les Philistins en profitent et attaquent. C'est souvent quand on revient à Dieu, pour ceux qui ont quelques années dans la foi, vous pouvez sûrement le dire, c'est quand on passe du temps devant Dieu que l'ennemi redouble de force. Mais cette fois, Israël ne compte plus sur ses armes, sur sa stratégie, sur son unité, mais sur la prière. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, au verset 8. Et Dieu agit, l'Éternel fit gronder un grand tonnerre et mit les Philistins en déroute. C'est Dieu qui combat pour son peuple, repentant. La victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la communion retrouvée. Là où il y avait défaite, Dieu installe maintenant une délivrance durable. Il instaure la paix. Ça fait un peu fin heureuse, un happy end. pour les bilinguales, pas comme moi. Sa liste que Dieu peut et veut faire également dans nos vies. Il souhaite restaurer et bénir chacun dans de nombreux domaines et nous accorder sa paix, sa joie surnaturelle. Une vie de liberté et de victoire est possible lorsqu'on le revient à lui dans la sincérité et dans la repentance. Ainsi, le peuple d'Israël l'a expérimenté. Kamala aussi nous donne un exemple de la restauration que Dieu opère dans la vie de ceux qui reviennent à lui. Elle a repris progressivement le cours d'une vie normale, car Dieu l'a sortie de l'épreuve par le haut. Enfin, le témoignage. À la fin de ce passage, versets 12 à 17, on voit cette pierre posée, Ebenezer. Samuel pose une pierre, un signe visible, une mémoire spirituelle. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette pierre, Ebenezer, signifie pierre de secours. Elle marque un avant et un après, la fin de la honte et le début de la paix. C'est un souvenir qui fortifie la foi. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et à le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Dieu invite son peuple à se souvenir, pas seulement de la victoire, mais du chemin parcouru jusqu'ici. C'est reconnaître que Dieu a été fidèle étape par étape. C'est poser une borne de reconnaissance au milieu du désert. Et nous, et toi, où sont tes pierres d'Ebenezer? Les moments où tu peux dire « Dieu m'a secouru ». Là, il m'a relevé. Il m'a pardonné. Ces souvenirs fortifient notre foi. Ce sont nos repères. Quand reviennent l'épreuve, la peur, le doute, ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à faire de temps en temps des points de contrôle, les jeunes diraient des checkpoints, des points de sauvegarde dans les jeux vidéo, mais tout simplement des moments où on peut jeter en arrière un regard, au moment où tout est speed, ou au moment où on est pas bien, de reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté. Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté, maintes fois démontrées dans notre histoire passée? Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui. Et vous pouvez, à la suite de ça, lire Hébreux 12 qui nous rappelle tout ça. Peut-être même pouvons-nous placer de manière visible dans notre environnement de vie, notre maison, des pierres souvenirs, des symboles qui nous permettent de nous rappeler, nous témoignant des interventions. Ce peuple d'Israël faisait des posées, c'était visible, ce n'était pas juste un écrit que tout le monde ne pouvait pas forcément lire, il y avait des choses visibles. Et on voit Samuel qui retournait à ce lieu, de sorte à ne pas oublier sa grande fidélité à notre égard. Ces souvenirs sont alors comme autant de témoignages auprès de notre famille ou de nos amis pour faire connaître et honorer la fidélité de Dieu. Que ce soit une photo, un diplôme, ce sont des moyens, pas de tirer la gloire à nous, mais de rendre gloire à Dieu et de nous rappeler. Une foi qui gagne en maturité, quand tu regardes en arrière et que tu vois la fidélité de Dieu, ta foi grandit. Tu apprends à faire confiance même dans la tempête qui arrive et qui arrivera. C'est ainsi que Dieu construit les croyants solides, non pas en les épargnant, mais en les accompagnant. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confronté à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés. Omar nous dit, suite à la persécution, Omar et sa femme sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu éprouvée par Omar ayant renforcé sa foi, il décide de revenir vivre sur les lieux où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Il dit, nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici, à servir les disciples et l'Église de cette région, et être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté et de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. En conclusion, sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert et de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui, dans l'humilité et la repentance, de sorte à grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui. Alors aujourd'hui, regarde en arrière et dis avec confiance, jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru et sera notre secours à tous encore dans l'avenir. 2 Timothée 2,12 nous dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Voilà pour ce matin.